le dernier des journaux des cinémas d'Europe, ici à Fréquence 7, délocalisé à la médiathèque et non pas au centre de Bourneau. Comme d'habitude, comme de coutume, nous sommes bien dans le studio Claude Lost pour El Ultimo de la fila des journaux des journaux des cinémas d'Europe, et nous avons le bonheur de recevoir José Marie Goenaga pour le film Mas Palomas, qui passera ce soir au navire à 20h30, mais que nous avons bien entendu déjà vu. Je suis accompagné naturellement de Mathieu, vous l'avez entendu, et c'est Noémie qui nous aidera à communiquer avec José Marie Goenaga si le français ne suffit pas.
Oui, et je crois qu'il ne suffit pas, mais voilà. On verra.
Quand on aura grandi un peu, nous nous échangerons nos avis en basque, mais pour le moment, nous ne sommes pas capables de le faire. Mas Palomas, c'est un film très sensible. Je crois que Mathieu commencera par nous en parler, effectivement. Très sensible, Vicente, retraité, vit une retraite dorée à Las Palmas, dans les îles Canaries. Il est à Mas Palomas, justement, une ville balnéaire très agréable, un peu le Palm Spring des Canaries. Et malheureusement, un accident vasculaire cérébral le touche, et l'handicap, et sa fille se charge, un peu malgré lui, de le mettre en maison de retraite à Donostia, San Sebastián, ou une maison de retraite d'ailleurs tout à fait belle et agréable à vivre, mais où, bien entendu, la promiscuité, la communauté de vie avec des gens très différents de lui s'avère un petit peu difficile. C'est ce film donc très sensible que nous avons découvert ensemble, Mathieu, il y a maintenant à peu près une semaine.
Exactement, Olivier. Déjà, pour commencer cette émission, ayant la chance de l'avoir déjà vu pour en parler, je voulais déjà vous féliciter pour ce film sensible, pour un film qui raconte, on va avoir l'occasion d'en reparler, beaucoup de choses et de façon très impactante, très forte. C'est un film que vous avez co-réalisé avec Aitor Arregui. Exactement. Et ma première question serait déjà, comment avez-vous eu l'idée et la volonté de créer ce film, ce projet? Comment est né le projet?
Bon, merci beaucoup pour votre parole. Et bon, l'idée, je crois que commençait en 2016. Et ça a été la première fois que je suis allé à Mas Palomas en vacances. Et la réalité que j'ai trouvée là a été très attractive pour moi. Et je pensais rapidement que je voudrais faire quelque chose, quelques films et là-bas. Mais je n'ai pas l'histoire, mais plus ou moins, dans les mêmes périodes, j'ai lu un article sur les gens du collectif LGBTQ+, que quand ils sont dans les maisons de retraite, ils retournent au closet.
Il y a une régression par rapport au coming out.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un coming out à la mer. Et je pensais que c'est une histoire très forte et c'est un conflit très fort, spécialement pour une génération qui a à voir et les choses plus difficiles qu'aujourd'hui. Et fini ta vie dans le même closet, tu peux dire closet?
C'est sortir du placard?
Oui, placard.
Ou rentrer dans le placard?
Oui. Et placard, et fini ta vie dans le placard, et c'est très dur. Et donc, je pensais qu'il y avait une histoire intéressante et Et pour moi, était très important les contrastes entre Mas Palomas et la vie dans la maison de retraite.
Ok, super. Justement, pour continuer dans cette naissance de ce projet, je trouve qu'il est intéressant de parler du coup de votre duo de réalisateurs, parce que ce n'est pas votre premier film. Mmh. Et dans le monde du cinéma, en tout cas, dans le long métrage de fiction, c'est quand même pas chose commune de voir plusieurs réalisatrices ou réalisateurs. Et surtout, vous avez quand même fondé une maison de production qui s'appelle Moarty Production. Et alors, vous avez reçu de nombreux prix à travers vos courts-métrages et vos longs-métrages. Comment, à quand remonte cette coopération avec Aitor, quelle liberté vous a permis d'avoir votre propre maison de production pour ce film ou pour les autres projets, du coup?
Oui, nous avons, voy a decir en castellano igual, vale. Tenemos la suerte de producir nuestros propios trabajos, ¿no?, en coproducción con otra productora, y eso nos da mucha libertad creativa, ¿no? Al final tenemos un poco el control sobre lo que hacemos, ¿no?, para bien o para mal.
Bah, nous avons de la chance d'avoir notre propre maison de production en coproduction, et cela nous donne la liberté de faire ce qu'on a envie.
Sí, la verdad es que nuestra forma de trabajar muchas veces creemos que es más difícil de entender desde fuera de cómo lo vivimos nosotros. Para nosotros llevamos 25 años trabajando juntos y ese proceso creativo surge de manera muy natural.
Nous avons l'impression que c'est plus difficile de comprendre de l'extérieur notre façon de travailler, parce que finalement, pour nous, c'est chose facile, ça fait 25 ans et ça fonctionne.
Desde el principio comenzamos a realizar nuestros cortometrajes en cooperación, ¿no? Y luego ya cuando dimos el salto a los largometrajes, a los documentales, siempre establecimos la codirección como modo de trabajo, ¿no?
Nous avons commencé par des courts-métrages et quand on a fait les sauts pour les longs-métrages ou les documentaires, on a établi que ça serait toujours un binôme, un co-direction, co-réalisation.
Sí. A veces incluso entre tres.
Parfois nous sommes même trois.
Sí, porque somos tres directores.
John
Garaño, Aitor Arregui et moi. Donc, normalement, nous avons fait nous avons été deux co-réalisateurs dans chaque film, mais il y avait un film, Une vie secrète, où nous avons été les trois. Nous avons fait aussi une série, Cristóbal Valenciaga, où nous avons été aussi les trois. Mais normalement, quand nous avons fini Une vie secrète, nous avons dit c'est la dernière fois que nous sommes les trois comme réalisateurs, parce que c'est trop, c'est mieux entre deux.
D'accord, merci beaucoup.
Tu me regardes, Mathieu.
Je te regarde pour savoir si on commence à véritablement plonger dans le film.
Oui, quand nous sommes, après avoir vu tous les deux le film, nous sommes rencontrés évidemment avec Mathieu et nous avions chacun une remarque principale. Moi, la première remarque que je me suis faite, c'est que on sentait dans ce film une immense volonté de dire quelque chose, d'affirmer quelque chose. Et en fait, plein de choses à la fois. Et j'ai eu l'impression que ce film servait à affirmer son identité, sa personne, à plusieurs niveaux différents, qu'il s'agissait d'affirmer son humanité d'homme mortel, vieillissant, qui avait été un enfant, son identité peut-être d'homosexuel et de basque, et puis son identité d'individu qui avait fait le choix d'une retraite. Ce choix lui est ôté. Et je voulais savoir par quel moyen vous êtes dit que vous alliez permettre à vos personnages d'exprimer tout ça.
O sea, un poco que...
¿Cómo sí. los personajes iban a poder expresar todas esas elecciones del ser humano que envejece, el ser humano?
En realidad, yo creo que todo iba como muy unido, ¿no? Una cosa llevaba a la otra. Realmente, ya el propio contexto de la residencia te llevaba a hablar de... tanto de su sexualidad como de su identidad en términos más generales y la pérdida de tanto de una cosa como la otra, ¿no?
Sí, en la ambiance de la maison de retraite, tout était relié puisque c'est la perte par rapport à l'âge, à cette autonomie et par rapport à la vie sexuelle aussi.
Oui. Oui. Claro, para nosotros realmente cuando empiezas la historia es la historia de un señor homosexual, ¿no? Bueno, que es ingresado y que vuelve al armario, pero cuando empiezas un poco a documentarte sobre las residencias te das cuenta de que realmente allí no solamente él pierde su identidad como persona homosexual, sino todo aquel que entra ahí hay una tendencia a la pérdida de la identidad que traía, ¿no?
Voilà, comme à l'arrivée dans la maison de retraite, c'est la perte de l'identité sexuelle, mais pas que pour les gens homosexuels, mais pour tout le monde, puisque c'est un environnement qui fait que on n'a pas cette partie de la vie reconnue comme la vie sexuelle.
Y cuando nosotros empezamos un poco a documentarnos con las residencias, te das cuenta de que hay un tema ahí del que no se habla, ¿no? Que es el de la sexualidad de la gente mayor, más allá de la orientación sexual.
Voilà, c'est le tabou qui existe dans les maisons de retraite par rapport à la sexualité de tout le monde, sí. N'importe quelle orientation.
Y es un tema del que yo creo que la sociedad vive de espaldas a este tema, ¿no? Incluso cuando nosotros estábamos haciendo la película hay mucha gente que te pregunta, sí, pero la gente mayor tiene impulsos sexuales, tiene vida sexual.
C'est un sujet dont on ne parle pas, dont la société ignore, parce que c'est la vie sexuelle des gens aînés.
Entonces, yo creo que un poco la película habla un poco de eso, ¿no? Y la residencia no deja de ser una metáfora de la sociedad, ¿no? Una sociedad que lo homogeneiza todo, ¿no?
La maison de retraite apparaît ici comme une métaphore pour cette société qui rend homogène.
En esta sociedad todo el mundo considera que tú eres heterosexual siempre y cuando tú no digas lo contrario y si eres mayor va a considerar que no tienes sexo siempre y cuando tú no digas lo contrario, ¿no?
C'est les a priori de la société de hétérosexualité normative et pas de vie sexuelle pour les personnes âgées.
Mais il y a aussi la question de l'identité de l'âge, par exemple. Il est difficile de s'affirmer vieux. On voudrait que les vieux continuent à s'activer comme des jeunes, aillent à la salle de sport, etc. Les enfants aussi ont du mal. Vicente a du mal à accueillir son enfant. Il a du mal à accueillir sa propre fille. Il a eu du mal à l'élever. Il n'y a pas que l'identité sexuelle qui est difficile à exprimer.
Que no solo es la identidad sexual lo que es difícil de expresar, sino toda identidad, la relación padre-hija. Y...
Sí, yo creo que al final, Vicente, por un lado, él mismo está también limitado, ¿no? Seguramente condicionado por la sociedad, pero está limitado también, por todo aquello que le ha ido condicionando y le ha ido marcando en la vida, ¿no?
Et Vicente, le personnage, il est conditionné par ce qu'il a vécu, par toutes ces expériences de vie qui l'ont marqué.
Él entonces, él, claro, cuando estaba en Maspalomas, él estaba viviendo, parece ser que abiertamente, su sexualidad, había como una autoaceptación, pero cuando vuelve a la realidad de la que salió hace 25 años, es como que vuelve a encontrarse no solo con aquello que le violenta, sino con una homofobia interiorizada, ¿no?
Alors, à Maspalomas, il arrivait à vivre une vie pleine de liberté, sexuellement pleine aussi, mais le retour à Saint-Sébastien, à la maison de retraite, fait qu'il rencontre à nouveau peut-être l'homosexualité qu'il avait refoulée il y a 25 ans.
Sí, una homofobia interiorizada, ¿no?
Una homofobia interior.
Sí, entonces, bueno, realmente es una homofobia que viene generada por lo de fuera, ¿no? Pero él ya lo tiene tan interiorizado que al final el camino que va a hacer en la película es el camino hacia la autoaceptación, ¿no? Realmente lo que va a tener que vencer es esa homofobia que tiene dentro, ¿no?
Et il va devoir vaincre, cheminer vers ça, cette homophobie intérieure du retour.
En fait, ce dont il a besoin pour chaque partie de son identité, il a du mal à accepter lui enfant, il a du mal à accepter lui vieux, il a du mal à s'accepter comme père, mais à chaque fois, pour pouvoir s'accepter, il faudrait avoir un interlocuteur qui corresponde. Et justement, par exemple, le dialogue, il a du mal à être père parce qu'il a du mal à dialoguer avec sa fille, par exemple.
Sí, que ha hecho mal, ¿no?
O que le cuesta aceptarse como niño, como viejo, sí, como padre.
Sí, yo creo que al final todo parte de lo mismo, ¿no? Él no se acepta como persona homosexual. Y eso hace que no se acepte ni como padre, ni como abuelo, ni como amigo, ¿no? Es como al final el querer a los demás empieza por quererse a uno mismo, ¿no?
C'est-à-dire que lui est difficile de s'aimer soi-même et parce que d'aimer les autres parce qu'il n'arrive pas à s'aimer soi-même. Donc comme quoi tout viendrait du fait de ne pas accepter au départ son homosexualité.
Entonces, o sea, realmente para mí hay un momento clave en la película que es cuando él realmente le cuenta a su hija cómo le había pedido una muñeca en Navidades a su padre, pensando que se lo estaba pidiendo a un rey mago, ¿no? Entonces, el que él finalmente exteriorice eso es como un poco hacer las paces con el niño que fue, ¿no?
Et question dialogue, il pointe un moment clé du film, que c'est quand le père raconte à sa fille les moments où il a commandé au roi mage, comme le Père Noël en Espagne, une poupée. Et voilà, c'est dévoilé.
Sí, que es como el primer momento en el que él exterioriza algo de su infancia ante su hija, ¿no?
Voilà, là, il livre un moment de son enfance pour sa fille.
Pour parler, les rois mages lui ont apporté un camion. Donc il a compris qu'il y avait plusieurs interlocuteurs et qu'il fallait régler son discours en fonction des interlocuteurs qu'on avait. Et en fait, on a l'impression pendant tout le film qu'il est toujours à la recherche des mots qu'il va pouvoir employer avec chacun différemment. Par exemple, il cherche les mots qu'il va pouvoir utiliser avec Shanti dans la chambre, par exemple.
Yo creo que él al final en la residencia acaba construyendo, digamos, otra vez un armario, ¿no?, en el que se esconde y desde ahí habla Shanti, ¿no? Entonces, él marca algunas condiciones a la hora de relacionarse con Shanti, pero en cierta forma se adapta a él, ¿no? Y le muestra la cara que cree que Shanti va a querer ver, ¿no?
Il dit qu'il finit par adapter un peu son discours et recréer un placard où Shanti va trouver son compte, mais c'est lui qui s'adapte.
Pour habiter ensemble.
Oui.
Pero al mismo tiempo, desde ese armario crea una relación muy verdadera con él, con Shanti. Es un poco paradójico, pero es así.
D'accord, c'est paradoxal, mais il arrive à créer une vraie relation.
Oui, parce que
authentique.
On en parlait au micro avec Mathieu, comme disait Mathieu, Shanti est quand même un personnage qui apparaît comme très réactionnaire, très dur, et on se demande comment ils vont pouvoir échanger tous les deux, et à la fin, ils s'aiment en fait tous les deux.
Sí, al final se establece, para mí al menos, se establece en esa habitación una suerte o una especie de matrimonio, ¿no? No es un matrimonio, pero se establece como una especie de convivencia casi marital, ¿no?, entre ellos.
Que dans la chambre, il arrive à établir un rapport presque marital.
Entonces, hay gente que incluso se pregunta Shanti tiene algún interés más allá de la amistad o no, o el propio Vicente tiene la atracción de Vicente hacia Shanti, ¿cómo se define, no? Hay un terreno, hay un tanto ambiguo en esa relación. Nosotros conocemos más la realidad de Vicente porque está todo contado desde su punto de vista, pero está claro que hemos querido jugar un poco con la ambigüedad en esa relación.
La question reste ouverte, il y a de l'ambiguïté, de qu'est-ce qui est vraiment les attendus de Santi, qu'est-ce qu'il attend de cette relation, et même aussi pour Vicente, parce que l'histoire est racontée depuis le point de vue de Vicente, on a plus d'informations sur lui, mais la question reste ouverte.
Al final, la película habla de armarios y nosotros vemos el armario de Vicente porque estamos todo el rato con él, pero sí que descubrimos también que la hija tiene su propio armario como hija de gay y Shanti tal vez tiene el suyo propio, pero no lo sabemos porque se lo llevará a la tumba.
C'est une histoire de placard, donc on connaît bien les placards de Vicente, mais même sa fille a son propre placard en tant qu'enfant d'homosexuel, et Santi a certainement son propre placard qu'on n'a pas le temps de découvrir, puisque les films ne parlent pas de ce point de vue.
J'étais curieux de savoir si les Basques étaient aussi au placard en Espagne, non?
Bueno, no, posiblemente cada vez menos, pero sí, sí se da. Al final, te sientes un poco identificado a veces con el tema de la necesidad de tener referencias, ¿no? Si tú no puedes exteriorizar ciertas cosas, pierdes las referencias en la sociedad y no puedes evolucionar.
Alors, c'était l'histoire des placards des Basques. Et il dit qu'on a besoin d'avoir des références extérieures pour pouvoir exprimer. Et sans ces références, en fait, on perd l'occasion d'exprimer.
Por ejemplo, en el cine, nosotros hasta hace muy poco no se hacía cine en euskera apenas. O sea, no había una producción cinematográfica en euskera.
Par exemple, c'est le cas pour les cinémas en basque, en langue basque. Il n'y avait pas tellement de réalisations ni de productions en basque, donc il n'y avait pas cette référence.
Es algo de los últimos 20 años, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que cada lengua necesita sus expresiones culturales, ¿no?
Cela fait 20 ans que c'est possible et du coup on peut vraiment exprimer la culture à travers les cinémas.
Sí, sí. Y claro, a medida que vas haciendo es como que tienes cada vez más referencias y te refuerzas un poco te ves reflejado más, ¿no? En el cine, en la gran pantalla.
Plus il y a des films en langue basque, plus c'est facile de se voir reflété.
Y yo creo que es lo mismo que pasa con, por ejemplo, con el público homosexual. Hace no tantos años no había apenas referencias homosexuales en la pantalla y cada vez hay más y por lo tanto te puedes ver más reflejado y puedes evolucionar más socialmente, ¿no?
Et c'est la même chose pour les références homosexuelles au cinéma, que c'est assez récent. Et avec ces cinémas où l'on parle de plus en plus d'homosexualité, on peut se voir reflété et évoluer.
Y lo mismo, un poco, yo creo que puede pasar lo mismo con la sexualidad de la gente mayor, que apenas está representada en pantalla y, por lo tanto, la propia gente mayor no tiene dónde mirarse, ¿no? No tiene referentes. Y cuando hay un referente, muchas veces es un referente negativo, de viejo verde, etcétera, ¿no?
Et c'est la même chose pour la sexualité des personnes âgées qui n'apparaît pas souvent au cinéma. Du coup, les gens âgés n'ont pas cette référence ou c'est une référence négative comme les vieux pervers. Ouais.
Mais la maison de retraite dans laquelle se trouve Vicente est une maison de retraite très, très ouverte finalement. Mmh. Vous connaissez un peu ce milieu-là? Vous connaissez différentes sortes de maisons de retraite à Saint-Sébastien par exemple?
La documentación se hizo a través de un grupo de residencias que hay en Guipúzcoa, en nuestra región.
Ils se sont documentés dans un groupement de maisons de retraite de Guipúzcoa, qui est la région où il y a San Sebastián.
Este grupo de residencias sí han hecho como una evolución dentro de lo que es la residencia, pasando de un sistema más basado en el servicio, donde, donde los residentes no son más que números, a un servicio más basado en las personas y en el proyecto de vida de cada persona, ¿no?
Et c'est vrai qu'on a constaté une évolution du numéro, les clients qui, en tant que numéro, ils sont passés à des gens dont on considère les besoins et les désirs.
Entonces, no todas las residencias hacen esa evolución, pero sí algunas. Y lo que pasa que tal vez esa evolución se encuentra también con las limitaciones de los recursos, ¿no? De los recursos que pueden dedicar, la cantidad de auxiliares que tiene una residencia, por ejemplo, ¿no?
Donc, c'est une évolution qu'on a constatée dans certaines de ces maisons de retraite, mais la limite, ce sont les ressources humaines, les auxiliaires, les possibilités.
Y luego también el que los propios trabajadores estén preparados para ese cambio, porque, y esto lo vemos también en la película, tú por mucho que como sistema, como residencia, quieras cambiar ciertas cosas, si los trabajadores que están dentro no hacen un cambio mental también, ¿no?, de ver las cosas desde otro lugar, te vas a encontrar con esa limitación, ¿no?
Et ça dépend aussi beaucoup de la formation des employés, des travailleurs, que si ça se voit dans les films d'ailleurs, s'ils n'ont pas cette formation, il y a cette limite et ce n'est pas possible.
Por ejemplo, en la película vemos en un momento que es un poco spoiler igual, pero que el protagonista finalmente confiesa a la psicóloga que es homosexual. Y la psicóloga no sabe acompañarlo, porque en lugar de decirle yo te acompaño y vamos a hacer frente a esto, le dice ¿estás seguro de que quieres decirlo en la residencia? Porque igual no te van a aceptar. Entonces ahí hay como una incapacidad de acompañar a este residente.
C'est peut-être une façon de spoiler, mais dans les films, on voit les moments où les personnages se confient à la psychologue de la maison de retraite et elle ne sait pas accueillir cette parole. Elle réagit seulement en disant « Es-tu sûr que tu veux partager cette information avec les autres ?» au lieu de vraiment accompagner Vicente.
Mais je m'aperçois, on s'en apercevait aussi avec Mathieu, qu'il est difficile de parler longuement de ce film sans risquer de spoiler. Parce que c'est un film au cours duquel les choses évoluent et prennent du sens au fur et à mesure. On comprend de mieux en mieux Vicente, on comprend de mieux en mieux sa fille. Et par exemple, au début du film, sa fille peut paraître brutale. Et comme on vient de le dire ici, au fur et à mesure du film, on s'aperçoit qu'elle a fait attention de le mettre dans une maison de retraite qui est moderne, qui est avancée, on va dire. Et donc, elle apparaît de plus en plus comme une fille tendre et bonne pour son père.
Sí, ahí sí que para nosotros el mayor reto en la película estaba en cómo transmitir al espectador todo el pasado que hay entre estos dos personajes sin hablar demasiado sobre ese pasado, ¿no?
Alors, un défi du film, c'était de comment transmettre, comment communiquer les passés qu'il y avait entre père et fille sans trop dévoiler.
Porque queríamos hacer una película que transcurriera en el presente y entonces hablar demasiado de ese pasado nos resultaba poco cinematográfico.
Parce que le film est axé dans le présent et parler du passé, ça devenait peu cinématographique.
Entonces era un poco ir equilibrando lo que se decía, lo que no se decía, las miradas, cómo ir contando y cómo hacer que el espectador capte ese pasado o al menos parte de ese pasado para seguir esta historia en el presente, ¿no?
Alors, il s'agissait de savoir comment le spectateur allait pouvoir suivre cette partie du passé qui agit dans le présent par rapport au regard, par rapport au non-dit, aux choses dites.
Entonces era una cuestión de equilibrar y de dosificar la información a lo largo de toda la película, ¿no?
Il s'agissait de doser cette information tout au long du film.
Ouais. De ce point de vue-là, il y a une image qui me paraît emblématique du film, c'est le moment où Vicente est assis et il doit rééduquer sa main. et son bras, et pour rééduquer sa main, son bras, on lui donne un miroir. Il faut que son cerveau apprenne à retrouver le mouvement. Et on a l'impression que le film est un peu comme ce miroir et que le spectateur, il doit se rééduquer et apprendre à échanger avec Vicente d'une certaine manière.
Sí, es una imagen para nosotros muy importante. Porque en realidad sí habla de lo que dices tú, ¿no? De ese reaprendizaje y habla también un poco de las referencias a las que antes hacíamos referencia, valga la redundancia, ¿no?
Oui, c'est vrai que ces moments du miroir, c'est important et ça nous ramène à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux références nécessaires à l'extérieur.
Oui, oui, oui. Mais je suis désolé, j'ai l'air un peu perdu comme ça, mais c'est parce que je n'avais pas compris qu'on me faisait des signes pour dire qu'il était temps de nous séparer. Je n'avais pas compris, je croyais qu'on avait un peu plus de temps. Il me reste donc tout simplement à prendre congé et à vous remercier, José Marie Cuenaga. De nous avoir expliqué un petit peu la vie de Vicente. Mais je conseille vraiment à tous les auditeurs d'aller voir ce film ce soir à 20h30 au Navire, parce que comme le disait Mathieu au début de l'entretien, il y a une vraie sensibilité et un vrai travail de co-réalisation qui apporte beaucoup de finesse dans le propos, je crois, comme on l'a expliqué à la fin de notre entretien. Noémie, merci pour la traduction.
Avec
Mathieu,
plaisir.
Merci pour les questions. Plex, merci pour la réalisation. Ciao, ciao.
Merci.
Au revoir.